11 d'or, a-t-on suffisamment d'éléments pour affirmer que le sommet de cycle a été fait à 3 500 $, alors que la situation géopolitique s'est apaisée? Eh bien, je vous donne tout de suite la réponse. La réponse est non. Nous n'avons clairement pas suffisamment d'éléments, ni sur le plan fondamental, ni sur le plan technique. Même s'il y a des divergences baissières techniques qui apparaissent, valider un haut de cycle sur le plan technique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut au moins une pattern. Et sur le plan des fondamentaux, la géopolitique, finalement, ne représente qu'une part infime des fondamentaux qui ont poussé la tendance de l'or. Alors, dans cette nouvelle édition du Fast & Forex, je vous propose de tout reprendre. J'ai des choses intéressantes à vous montrer. J'ai réussi à donner un poids relatif à tous les facteurs fondamentaux pour voir lequel a plus d'influence que l'autre. Et puis, bien sûr, quel est leur statut actuel. Donc, on se fait un gros passage en vue technique et fondamental sur le cours du gold. Je vous dirai aussi un mot sur le XPT-USD. J'espère que vous avez suivi la stratégie. Je vous l'ai proposé à 3 semaines. Le truc s'est envolé. Maintenant, il faut soit prendre ses bénéfices, soit gérer ses gains. 11 d'or, le sommet de cycle est-il fait à 3 500 $? Bienvenue à la nouvelle édition du Fast & Forex. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis donc ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast & Forex. Alors qu'il fait chaud, 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 ici à Paris, j'enregistre la vidéo à Paris, il fait 40 degrés. Et là, je suis dans une pièce avec des lumières dans tous les sens dans la figure. Autant vous dire que j'ai chaud, 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 chaud. Est-ce chaud aussi pour le gold? Le gold qui vraiment a hyper bien performé ces derniers mois, même ces dernières années. C'est pourquoi on se pose la question, puisque l'or, lorsque vous regardez les graphiques de moyen long terme, il est très cyclique. Il alterne des phases comme ça de poussée. Et puis ensuite, pendant quelques mois, voire parfois années, même, il se met en phase latérale. Et c'est justement lorsqu'on pense que ces phases latérales n'auront plus jamais lieu, parce que je peux entendre des types d'âneries sur l'or, que justement ça arrivera. Alors, la question est simple. La réponse ne sera pas simple. Enfin, si présenter des arguments qui ne sont pas compliqués, la réponse est complexe. En tout cas, il y a des nuances. C'est-à-dire que, effectivement, les 3 500 $ ont bloqué le marché. Effectivement, il y a eu depuis une phase donc de 200-300 $ de correction, en grande partie déclenchée suite au cessez-le-feu au Moyen-Orient. Là, la situation n'est pas pour autant stabilisée, mais tout de même, le fait géopolitique a joué. Et justement, c'est là où je voulais reprendre certains éléments, puisque j'ai pu lire ci et là que la géopolitique était le driver principal de la tendance de l'or. Ce qui est faux et archi-faux. Les facteurs d'influence sur l'or, d'un point de vue fondamental, sont nombreux. La géopolitique n'en est qu'un aspect. Il y a la corrélation inversée avec le dollar américain, avec les taux d'intérêt, la demande financière aux financières via les ETF. Il n'y a pas que les ETF américains, il y a les ETF en Asie, il y a les ETF en Europe. L'incertitude vis-à-vis du contexte macroéconomique et la guerre commerciale, l'aspect donc refuge, les tensions géopolitiques, oui. Il y a aussi la demande des banques centrales, dans un souci de se diversifier, de diversifier ses réserves de change et de diminuer la part du dollar américain. Il y a beaucoup de facteurs, en fait. Et si vous voulez, ce qui a expliqué que l'or, depuis début 2024, rappelez-vous, quand il avait donné ce signal technique haussier que nous avons suivi ensemble, de base, la cassure technique de l'ancien record historique, en février 2024, à 2075 $. Non mais, pour l'or, lorsque vous associez fondamentaux et techniques de manière juste, c'est un régal. Depuis, la cassure des 2075 $, le machin est monté à 3 500. Bon, c'est un chiffre rond, certes, au-delà de ça, c'est un endroit où passent des cibles théoriques techniques, qui pour la plupart ont été faites, des cibles de long terme. C'est pourquoi je pose cette question régulièrement, depuis plusieurs semaines, puisqu'on se maintient sous ces 3 500. Pour autant, même sur le plan technique, ce n'est pas parce qu'on atteint des objectifs de cours théoriques que c'est forcément la fin, puisqu'on peut toujours en trouver au-dessus. Et oui, en cherchant bien, avec l'analyse technique, on trouve toujours ce qu'on cherche. Mais en tout cas, les plus évidents, les plus usuels, voilà, c'est l'adjectif que je cherchais, ont été faits. Maintenant, atteindre des objectifs, c'est bien, c'est une chose. Quant à argumenter pour un haut de cycle, c'est différent. Argumenter pour un haut de cycle, là, c'est valider une pattern de renversement. Et là, c'est autre chose. Et la dernière fois qu'il y avait une vraie pattern de renversement, de pause, alors ce fut en 2011, et aussi en 2020, au moment, suite à une poussée post-Covid. Ensuite, il y avait eu soit une correction, soit un rôle. Donc, il faut aussi comparer avec les éléments qu'on a dans le passé. Mais effectivement, on peut, nous avons des éléments pour nous interroger sur le plan technique. Alors, voilà le plan de cette nouvelle édition du Fast and Forex. On commence par une grosse partie fondamentale que je vais un peu creuser. Alors, j'ai tout rassemblé sous forme de tableau, assez synthétique, vous allez voir. La nouveauté de cette vidéo, c'est que donc j'ai vraiment rassemblé ce que je pensais être vraiment les fondamentaux qui impactent le cours de l'or. Nous allons regarder en détail où en sont ces fondamentaux. S'il y a des corrélations inversées, est-ce qu'elles jadissent ou pas? Si, selon vous, par exemple, la raison principale de l'avancée de l'or est le fait que le dollar américain soit la devise la plus faible sur le marché d'échange, et si ce dollar doit encore baisser, est-ce que l'or va être encore soutenu? Bon, on reprend tous ces aspects. Je vais proposer pour chacun de ces facteurs fondamentaux un pourcentage. Typiquement, par exemple, à la géopolitique, quel pourcentage d'influence sur la tendance de fond lui accordez-vous? Plus le pourcentage est élevé, plus l'impact est jugé structurel. Plus le pourcentage est faible, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ça n'agit pas. C'est d'abord une dimension conjoncturelle. Donc, par exemple, vous allez voir qu'à la géopolitique, j'ai mis un petit pourcentage. C'est parce que la géopolitique, c'est cyclique. Ça vient, ça va, ça vient. Par contre, les tendances de fond du dollar ou des taux d'intérêt, ça me paraît beaucoup plus structurel. Ou encore la demande des banques centrales. Et donc, je leur mets, vous allez voir que j'ai mis un poids supérieur à la géopolitique. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, n'hésitez pas. Hein. Vous pensez que la géopolitique, c'est 50% de la tendance de l'or? Je suis preneur de toutes les opinions argumentées. Ensuite, alors je reprendrai alors sur le plan technique, est-ce que le haut de cycle est fait? Il y a des divergences, les cibles long terme sont faites sur le plan théorique. Pour autant, il n'y a pas de pattern de renversement baissier, pas sur les graphiques de moyen long terme. C'est-à-dire que affirmer qu'un haut de cycle est fait, c'est visualiser une pattern de renversement baissier sur l'horizon de temps hebdomadaire ou mensuel. Ça n'existe pas là au stade actuel. Il n'y en a pas. Il y a une correction journalière, mais qui là aussi tient des supports, en tout cas quand j'enregistre la vidéo. Donc, il est beaucoup trop tôt pour crier à un haut de cycle à 3 500 $. Mais il est tout à fait le bon timing pour s'interroger. Et de poursuivre cette interrogation ces prochaines semaines. Alors, j'en ai parlé dans le Top Gun de lundi. Je vous renvoie vers cette vidéo Top Gun à propos du pivot de la Fed. Aura-t-il lieu en juillet? Aura-t-il lieu en septembre? Enfin, le pivot c'est-à-dire, elle a pivoté en 2024, mais depuis le début d'année, elle n'a pas baissé ses taux. C'est important parce que, bien sûr, que l'or exprime aussi, s'exprime en termes de prix avec une corrélation inversée vis-à-vis des taux d'intérêt, notamment des perspectives de politique monétaire de la Fed. Et attention, cette semaine, la semaine dernière, c'était l'inflation USPSE. Cette semaine, vous avez le rapport NFP. Et je vous le rappelle, le vendredi 4 juillet est un jour férié aux États-Unis, c'est la fête nationale, célèbre l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, cette semaine, donc, le rapport NFP est avancé, puisqu'en général, il est publié le premier vendredi de chaque mois. Là, tous les chiffres sont avancés au jeudi 3 juillet. Donc, c'est le temps fort fondamental de la semaine. Et l'or va fortement réagir à ce rapport NFP, en lien aussi avec son aspect refuge vis-à-vis de l'incertitude macroéconomique ou en lien avec la probabilité d'une récession. Il y a beaucoup de choses comme ça qui jouent. Il n'y a pas que la géopolitique. Voilà. Alors, imaginons donc justement que le marché fasse une cassure technique haussière des 3 500 et aille au-delà. On va essayer un peu de se projeter sur des raisons qui pourraient le pousser au-delà. Et puis, je refais un point technique rapide sur le XPT-USD pour lequel je vous ai proposé une stratégie. Il y a 3 semaines, la matière, le métal a bien progressé. Et là, on est plus maintenant dans une phase où on approche du surachat. Il faut soit prendre ses bénéfices, soit gérer ses gains. Je pense que ça peut aller plus haut sur le moyen long terme, mais là, pour le court terme, ça peut être pas mal au moins de remonter les stops. Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Le sommet du cycle de l'or est-il fait à 3 500 $? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Avec un plan qui s'affiche sous vos yeux, un plan donc que je vous ai donné à l'oral, vous allez voir. Commencez par une grosse partie fondamentale, une partie technique, et puis ici un certain nombre d'autres sujets dont j'ai pu vous parler dans l'introduction. Tiens, j'ai oublié d'ailleurs dans l'introduction de rappeler que je vais aussi passer en revue le rapport relatif entre Bitcoin et l'or, à travers donc le fameux ratio Bitcoin-Gold, ça c'est important, et ça fait partie des baromètres qui peuvent aider à répondre à cette question. Donc d'un éventuel record. Un haut de cycle en tout cas de l'or à 3 500 dollars, l'or qui avait donné un gros signal bullish en début d'année 2024 en dépassant les 2 075 dollars l'once. Donc déjà, de quoi parlons-nous? Je repasse ici sur un graphique en données mensuelles, je suis sur une échelle logarithmique. Hein. Donc le signal qui avait été donné en février 2024, c'est celui-ci. L'or, il n'y a pas de piège. Hein. L'or, il n'y a vraiment pas de piège. Vous avez des longues phases haussières, des grosses phases de range, des breakouts, on repart pour une phase haussière, une phase de range, un breakout, on repasse pour une phase haussière, et viendra le moment, si vous voulez, viendra le moment où l'or se mettra à nouveau, dans le pire des cas, en pause. La question est donc savoir, est-ce que ces 3 500 dollars, niveau sous lequel le marché en fait se maintient depuis le milieu du mois d'avril? C'est pour ça que je pose la question. Les hauts de cycle précédents, si vous prenez ici à gauche le graphique en données mensuelles, le haut de cycle, ce cycle qui avait vu l'or passer de 250 dollars l'once d'or à 1 900 dollars l'once d'or, eh bien c'est bien parce qu'à un moment ou un autre, on s'est mis en pause, on a fait ici une pattern, on avait cassé ici les 1 530 dollars, que le marché est entré dans une phase de pause. Bon. Là, en mensuel, en fait, là, ça fait que 3 mois hein, que nous sommes en range. Et vous en avez ici la version journalière. Donc c'est simplement. Voilà, s'interroger, et c'est aussi en lien avec l'apaisement géopolitique des tout derniers jours, même si vous allez voir que la géopolitique n'est pas le facteur dominant. Alors c'est parti, donc commençons par les fondamentaux. Donc d'un point de vue des fondamentaux, est-ce que le sommet de cycle à 3 500 dollars peut être validé? Je vous dis tout de suite, la réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Et clairement, la géopolitique est un facteur qui agit, qui a une source d'influence, mais cela n'a rien de structurel. Sauf guerre mondiale, tous les conflits que je pourrais qualifier de régionaux à travers le monde ont un impact conjoncturel. Ils agissent sur une période bien déterminée. Bien sûr que s'ils s'installent dans le temps, s'ils ont un effet disruptif sur les flux économiques et les flux commerciaux, ça change. Pour le moment, chacun d'entre eux reste contrôlé d'un point de vue régional, et l'économie mondiale n'est pas partie en récession. Donc c'est un aspect conjoncturel dès lors que les choses restent sous contrôle. Alors, à la question de savoir est-ce que le haut de cycle de l'or a été fait à 3 500 dollars, la première façon de répondre est, d'un point de vue fondamentaux, est-ce que les moteurs de la tendance haussière qui comptent ont-ils calé? C'est la question. Ça, une bonne façon de répondre. Les moteurs haussiers ont-ils calé? Alors, vous avez ici à droite un tableau. Attendez, je vais vous le sortir. Bon, attends, on va le regarder comme ça. Je vais donc ici créer à droite un tableau avec ce que j'estime être les principaux facteurs fondamentaux d'influence sur l'or et donc où en sont ici le statut de ces fondamentaux. Premier facteur fondamental, la corrélation inversée avec le dollar américain. Deuxième facteur fondamental, la corrélation inversée avec les taux d'intérêt. Troisième facteur fondamental, le rôle des ETF aux États-Unis, en Asie et en Europe, ainsi que des contrats à terme, mais surtout des ETF. Quatrième, alors c'est pas dans l'ordre d'importance, hein. L'importance arrivera après. La demande physique en Chine de la part de l'industrie de la joaillerie, idem en Inde, la demande des banques centrales, et enfin l'aspect refuge de l'or, soit vis-à-vis d'incertitudes macroéconomiques, comme là actuellement la phase de guerre commerciale, diplomatie commerciale, soit bien sûr l'aspect refuge en lien avec l'incertitude géopolitique. Tous ces facteurs jouent ensemble. Alors, tout d'abord, la corrélation inversée avec le dollar américain. Concrètement, ça c'est ce qu'on observe sur longue période. Le dollar faible soutient le dollar et inversement, soutient l'or. Et inversement, un dollar fort nuit à la tendance haussière du gold. Tout simplement parce que c'est un effet d'arbitrage, d'opportunité forex, où lorsque vous interrogez les institutionnels américains, lorsque le dollar chute, c'est une façon de se couvrir, c'est une façon de gérer le risque de change. Au stade actuel, ce moteur n'est pas éteint, puisque le dollar américain reste, alors oui, peut-être il y a des supports en approche, ok, on peut toujours trouver des supports, peu importe. Le dollar reste au stade actuel la devise la plus faible du marché des changes, et l'euro-dollar semble prendre le chemin des 1,20 dollars. Vous avez vu sur l'euro-dollar cette cassure ici sur les dernières clôtures mensuelles qui ouvre le chemin à davantage de hausse. Donc effectivement là, ce n'est pas du tout. Et lorsque vous regardez le dernier rapport Commitment of Traders de la CFTC, le positionnement sur les contrats à terme euro-dollar, vous avez une position nette qui continue d'avancer. Donc il y a de plus en plus de positions longues que par rapport aux positions short. Avec ici, il y avait une cassure technique baissière de cette trend qui rappelait celle-ci. Et voilà, donc là pour le moment, l'euro-dollar reste soutenu. Je ne parle pas d'aujourd'hui ni cette semaine, hein, je parle de la tendance de fond. Et moi, je ne serais pas surpris qu'il aille chercher les 1,20 cette année. Donc le dollar, la tendance baissière du dollar, reste un moteur de l'avancée de l'or. Les taux d'intérêt, alors, toutes les banques centrales occidentales ont pivoté. Pas, on attend toujours la Fed, mais la BCE, elle est revenue au taux d'intérêt dit neutre. Aux États-Unis, lorsque vous regardez le rendement obligataire américain à 2 ans, qui anticipe ce que fera la Fed, c'est vraiment le taux qui colle le plus. Alors, le marché n'a pas cassé ce support, donc on n'est pas encore dans une anticipation de baisse de taux rapide de la Fed. Mais malgré tout, petit à petit, les taux du marché reculent aux États-Unis. Les taux du marché reculent en lien avec les anticipations de la Fed, en lien aussi avec un retour des capitaux sur le marché obligataire, avec l'incertitude macroéconomique. Le marché se projette sur, a priori pas en juillet, mais au moins trois baisses de taux d'ici la fin de l'année. Donc, alors, en Europe, la BCE, elle est revenue au taux d'intérêt dit neutre. Bref, la corrélation inversée vis-à-vis donc des taux d'intérêt agit toujours en soutien. Les ETF, ça c'est très lié au dollar américain. La demande vis-à-vis, donc la demande financière aux financières, où depuis le début de l'année, vous avez ici un histogramme qui vous montre la demande de gold sur les ETF US, les ETF européens, les ETF asiatiques. Et depuis le début de l'année, il y a eu un certain nombre de semaines où les trois régions ont poussé ensemble. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que sur les dernières semaines, malgré la conso sur l'once d'or, il y a eu des inflows sur les ETF US, en grande partie parce que le dollar est faible. Donc, les ETF restent encore un facteur de soutien. La demande physique en Chine et en Inde, c'est une grosse partie de la demande globale d'or. Et ça, c'est une tendance haussière de fond qui se maintient, qui est là en permanence. Vous pouvez regarder, par exemple, pour l'Inde, vous avez le PMI manufacturier de l'Inde qui se maintient depuis des mois et des mois au-dessus du niveau des 50 et qui même réaccélère. La demande d'or de la part de l'industrie indienne reste un gros facteur de soutien. Pour la Chine, même si la Chine a du mal à redémarrer, à relancer sa consommation des ménages, vous avez une politique budgétaire et une politique monétaire archi-accommodante qui, in fine, continue d'entretenir la demande physique d'or en Chine. Ça, ce sont des demandes qui se maintiennent. La demande des banques centrales. Alors là, il y a eu un rôle très important de la demande des banques centrales dans la tendance haussière de l'or ces dernières années. Lorsque vous prenez, par exemple, ici, donc vous avez trimestre après trimestre la part des différentes demandes dans l'or, et vous pouvez voir que globalement la demande des banques centrales a une part assez constante. Alors ça évolue, mais la demande des banques centrales est bien présente. Et là je me tourne vers les dernières études du Conseil mondial de l'or, du World Gold Council, qui interroge les perspectives de gestion des réserves de change des banques centrales à horizon 12 mois. Bon, vous voyez que année après année, les banques centrales confirment qu'elles vont augmenter le poids relatif de l'or dans leur réserve de change, en défaveur notamment du dollar américain. Donc, la demande des banques centrales va rester un facteur de soutien. Donc, c'est intéressant parce que ce qu'on commence déjà là à constater, c'est que des objectifs majeurs techniques ont été faits. Oui, il y a un un début de divergence. Il y a un once d'or qui, depuis mi-avril, ne fait pas de nouveau record. Il se met à plat. Mais ce qu'on constate déjà, c'est qu'un certain nombre de moteurs fondamentaux puissants ne sont pas éteints. En même temps, il n'y a pas non plus de pattern technique de renversement. Mais il y a des cibles techniques qui sont faites. Il y a un marché qui, malgré ses fondamentaux porteurs, n'a pas été capable de dépasser 3 500 $. Oui, il y a anguille sous roche. Il y a de quoi s'interroger. Toujours d'ailleurs, sur ce sujet des banques centrales, vous avez cette autre graphique qui nous vient du Conseil mondial de l'or et qui met bien en avant le fait que voilà, les banques centrales, à travers le monde, il n'y a pas que la Fed, il n'y a pas que la BCE, toutes les grandes banques centrales d'Asie, d'Afrique, Amérique latine vont continuer d'accumuler de l'or. Donc ce sera ça toujours une tendance haussière de fond. Alors, effectivement, parmi les fondamentaux, l'on retrouve tout en bas, ici, l'incertitude macro et la géopolitique, et donc ce qui explique que l'or, en tout cas sur les toutes dernières séances, est un peu retracé, c'est l'amélioration, c'est un peu fort, mais l'apaisement géopolitique et la perspective de voir la diplomatie commerciale aboutir, puisque vous avez des informations comme quoi les négociations sur commerciales approchent, avancent, et la Maison Blanche a d'ailleurs déclaré que la date du 9 juillet n'était pas une date critique, donc voilà, le marché a l'espoir que des accords commerciaux puissent être trouvés. Alors ici, vous avez un tableau que je vous ai préparé, où voilà, je vous donne, selon moi, donc ce que peuvent être le poids relatif des différents facteurs d'influence sur le plan des fondamentaux. Et à la question de savoir, donc, est-ce que l'or a atteint un haut de cycle à 3 500 $? Bon, moi j'estime que pour affirmer ça, il faudrait voir les trois moteurs essentiels s'éteindre. La corrélation avec le dollar, les taux et les ETF. Et si vous voulez, tant que ces trois moteurs seront allumés, il sera difficile de crier haut et fort que les 3 500 $ sont le haut de cycle. Et pour le moment, ces trois moteurs sont allumés. Ces deux-là se sont peut-être ont peut-être un peu calé, mais peuvent se réveiller. Ceux-là resteront toujours allumés, vous l'avez compris, c'est structurel. D'accord? Donc je dirais que la clé pour moi reste du côté du dollar et des taux d'intérêt des ETF. Et c'est ça que je vais continuer de surveiller chaque semaine. Alors, sur le plan technique, ça, je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises et donc j'y reviens. Et puis, il faut faire les comparaisons avec le passé. Mais effectivement, vous avez ici donc les targets théoriques de ce que j'appelle la vague 5, l'aboutissement d'un cycle haussier complet. Ou voilà, c'est les targets que je vous propose depuis la cassure technique haussière ici de février 2024. Où les cibles théoriques, c'était entre 3 200 $ et le 0,618 était à ici à 3 560 $. Donc, j'ai une cible encore, donc 3 560 $, qui serait une target théorique de 5 de 5. Je projette 0,68 à la 1. Ça, c'est la 1, 2, 3, 4, 5. Là, je sous-décompte la 5. Et là, c'est la 5 de 5. Donc, j'ai une target théorique qui peut aller jusqu'à 3 560. Mais vous voyez bien que c'est passionnant de voir que toutes ces cibles théoriques, ici, qui sont un report de Sorange, le 1 pour 1 du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4 et des extensions de sous-décompte de 5 me donnent un intervalle qui, depuis 3 mois, a parfaitement stabilisé le marché. C'est quand même bluffant. Donc, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que des cibles théoriques importantes ont été faites. Maintenant, faire des cibles, c'est bien. Comme ici, la cible des 2 000 $ avait été faite, mais il a fallu, regardez, il a fallu quasiment un an et demi de range pour que le marché entre en correction. Là, le marché peut très bien se maintenir en range pendant des mois. Voilà, donc il y a effectivement des résistances de momentum qui sont atteintes. Donc, ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est que des cibles techniques ont été faites, mais que sur le plan des fondamentaux et sur le plan technique, il n'y a pas d'éléments. Alors, il y a des divergences. Vous avez ici, par exemple, une belle divergence weekly, hein, on voit bien, entre les deux sommets cours de clôture. Il y a des divs. En daily, quand j'enregistre la vidéo, ici, on a cassé la moyenne mobile à 50, mais vous voyez qu'on est toujours en soutien du Kumo, du système Ishimoku. Donc, voilà, c'est un bon timing pour s'interroger. Il y a le début de quelque chose, mais voilà, ni sur le plan technique, ni sur le plan fondamental, vous pouvez arriver comme ça avec sur vos grands chevaux, ou avec vos gros sabots, ou avec un mélange d'expressions, faites ce que vous voulez, on peut créer des expressions si on a envie de créer des expressions, et dire, oui, c'est sûr, c'est fait, à 3500, on n'ira pas plus haut. Non, 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 parce que j'ai même une cible théorique ici, à 3560. Par contre, si le marché devait casser 3120, j'insiste, si le marché devait casser 3120 $, on aurait le début d'une pattern. Et là, les choses changeraient. Donc, je vais continuer de suivre ça de près. Sachant que, voilà, au prix actuel, il n'y a plus de ratio rendement risque, hein, les supports sont tellement loin. Attention cette semaine, attention cette semaine, j'ai traité ce sujet dans le Top Gun. Plusieurs choses. Déjà, le rapport NFP est publié jeudi 3 juillet. Ça, je voulais déjà vous remontrer ça, puisque le 4, c'est férié aux États-Unis. Donc, le rapport NFP est publié le 3. Un scénario qui verrait la réserve fédérale des États-Unis pivoter en juillet, c'est uniquement si il y a une augmentation du taux de chômage ce jeudi. Alors, il y a des indicateurs. Par exemple, les inscriptions continues au chômage, c'est vraiment pas bon, la dynamique. Hein. Mais le taux de chômage, lui, est calé à 4,2. Et le seuil d'alerte de la Fed, c'est 4,4. Donc c'est vraiment le temps fort fondamental de la semaine, ce jeudi 3 juillet. Alors, Bitcoin Gold, alors c'est beaucoup trop tôt pour affirmer ça. Est-ce que le Bitcoin a pris le. Je surveille toujours ce ratio. Vous avez ici un ratio à surveiller. Nous sommes toujours dans un canal haussier sur le ratio Bitcoin Gold. Mais vous voyez que là, on est bloqué par la médiane. On est toujours. Alors, tant que le ratio se maintient au-dessus du Kumo Weekly, Bitcoin a légèrement l'avantage. Maintenant, voilà, il faudrait redépasser la partie centrale pour vraiment la voir. Si vous voulez dire que le gold a fait un haut de cycle, verrait ce ratio vraiment accélérer, dépasser sa partie centrale et rejoindre la partie haute. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc je surveille le ratio, mais il est bullish au-dessus du Kumo ici, du système Ichimoku. Alors, pour aller au-dessus des 3500 $, vous l'avez compris, c'est les fondamentaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faudrait qu'ils agissent tous ensemble, qu'ils se réallument tous ensemble pour aller plus haut. Et là, en particulier, la géopolitique et l'aspect diplomatie commerciale seront décisifs pour la tendance de l'or ce mois de juillet. Voilà, donc gérez vos gains. C'est une période, somme à une période. Une zone en fait technique où on commence à s'interroger sur le gold, mais il est beaucoup trop tôt pour pouvoir affirmer donc que le sommet de cycle a été fait à 3500 $. Et puis donc, en bref, rapidement pour terminer, je vous avais parlé il y a maintenant, je crois, 3 semaines du platine, parce que le platine, regardez un peu là, voilà, c'était ça, je vous en ai parlé ici, lorsqu'on a eu cette cassure technique haussière, et regardez un peu, l'impact d'un breakout. Attention, c'est complètement suracheté. Regardez le graphique d'ailleurs en données mensuelles. Après un mois comme ça peut temporiser un peu. Alors, je ne dis pas que le marché ne peut pas aller chercher ses sommets. Mais attention, attention. Hein. Bon, pareil, c'est le timing. C'est bien d'être haussier, mais on achète sur support. Par contre, si ça retrace et qu'on vient sur une zone de support, par exemple les 1200, là, cela pourra être une opportunité. Voilà, chers amis, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté. Et puis donc, je continue de suivre ça avec vous chaque semaine. Pour l'heure, nous verrons donc si ce sommet de cycle ou pas est fait à 3500 $. Merci à toutes et à tous.